Et là, dans Marc 8, en fait, on va commencer une sorte de cycle, parce que c'est moi qui utilise ce mot cycle, parce qu'en fait, on peut faire des parallèles avec ce qu'on a déjà étudié auparavant, à partir de Marc 6:30 jusqu'à Marc 7:37. En fait, Marc, il aime bien jouer avec les structures, et Benjamin vous l'avait montré, hein, avec la technique du sandwich, par exemple, parce qu'il entremêle des récits. Et là, en fait, Marc, il va présenter des événements qui trouvent des échos dans des événements passés. Notamment, ben, on a pu voir Jésus qui avait enseigné et nourri 5000 hommes. Là, on va le voir nourrir 4000 hommes. Il y a eu des controverses avec les pharisiens. On va à nouveau voir les controverses avec les pharisiens. L'incompréhension des disciples aussi, encore. Et puis aussi la guérison d'un sourd muet d'une manière un petit peu particulière. Et là, à nouveau, on va avoir une guérison, mais cette fois d'un aveugle. Et la différence, c'est que ces récits-là, ils vont être plus courts. Et puis, il y a certains éléments qui ne sont pas repris non plus. Par exemple, Jésus a marché sur la mer, ça va pas de parallèle ici. Et en fait, c'est parce que le récit, là, il est en train de s'accélérer. Et on va arriver à un premier point culminant dans l'évangile de Marc. Et en fait, ce premier point culminant, ça va être un début de réponse qui va être apporté à une question qui a été posée par les disciples en Marc 4. 41, qui était « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Autrement dit, quel est celui-ci qui a toute autorité ? Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'autorité de Jésus ces derniers temps, notamment dans les études de Benjamin et de Georges. Et là, il va y avoir un premier élément de réponse. Donc, on va commencer notre lecture. Je vous propose de prendre Marc 8, versets 1 à 9, si quelqu'un peut le lire.
En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre et prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya.
Merci. Donc là, moi, ce que je vous propose dans chacun de ces textes, on va suivre un chemin déroulé à chaque fois, c'est qu'on va examiner un peu le texte, voilà, on va un peu analyser le texte, on va essayer d'en tirer une idée centrale, on va faire le lien avec l'évangile de Christ, c'est-à-dire le plan de salut de Dieu, et puis enfin on va réfléchir à quelques applications pour nous. Donc si on reprend un petit peu notre texte, en fait, comme je disais, il y a un parallèle avec le récit où Jésus a enseigné et nourri 5000 hommes. Et il y a quand même des différences assez notables. La première, c'est que en Marc 6, Jésus il était auprès des Juifs. Et là, ici, il est en pays non-juif. Hein, c'est dit juste avant, dans Marc 7, il est dans la décapole. Et on a aussi une expression assez intéressante en Marc 8:3, où il est dit que certains sont venus de loin. Et c'est une expression qu'on retrouve notamment dans Ésaïe. Alors, parfois, elle fait référence au peuple d'Israël qui est dispersé, et qui est que le Seigneur rassemble. Mais aussi parfois l'utiliser pour faire référence aux nations qui viennent de loin. Et donc là, on a cette foule qui s'est réunie autour de lui. Et une autre différence, c'est que dans Marc 6, Jésus les a vus et il a eu compassion d'eux parce qu'ils n'avaient pas de berger. Mais là, ils sont déjà avec lui depuis 3 jours. Et en fait, ils sont avec lui depuis 3 jours probablement sans manger. Et donc Jésus a compassion pour ces brebis ici. Et il a compassion de leur faiblesse, de leur besoin de nourriture physique. Et Josias l'avait mentionné, Marc il s'appuie pas mal sur Ésaïe. Et donc là, il y a une allusion à Ésaïe 49, versets 8 à 10, si quelqu'un peut le prendre.
Ainsi parle l'Éternel. Au temps favorable, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs « sortez » et à ceux qui sont dans les ténèbres « paraissez ». Ils pourront paître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les côtés. Allez. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau.
Merci. Donc là, on a un commencement d'accomplissement de ce passage. En fait, on voit Jésus clairement qui occupe son rôle de berger, mais cette fois avec des brebis non juives. Un autre élément qui est assez intéressant ici, c'est le rôle des disciples dans ce passage. En fait, on pense à tout ce qu'ils ont vu auparavant, et on voit Jésus les interpeller, et on voit qu'ils ne comprennent toujours pas. Ils se demandent comment avoir assez de pain, alors qu'ils l'ont vu nourrir 5000 hommes. Alors, petite précision aussi, quand il est fait mention de 5000 hommes, c'est sans les femmes et les enfants. Là, c'est pareil, 4000 hommes sans les femmes et les enfants, donc je vous laisse imaginer la foule que Jésus a nourrie. Pour autant, Jésus est patient, et au verset 5, il leur pose la même question que dans Marc 6, 38, « Combien avez-vous de pain ?» Pourtant, pas d'effet. Et donc, du coup, il prend les choses en main, au verset 6, il fait asseoir la foule, il rend grâce, il rompt les pains, il les donne pour nourrir la foule, et il le fait d'une manière qui rappelle la scène, d'ailleurs. C'est le repas du Seigneur qui aura lieu au chapitre 14. Dans le grec, les expressions entre ce passage et celui de Marc 14, elles sont quasiment identiques. Et donc, il charge ensuite les disciples de la distribution et du service. Et donc, on a 4000 hommes, donc, comme je disais, sans les femmes et les enfants, qui sont rassasiés. Donc, Jésus a pris soin de ses brebis juives, et maintenant, il prend soin des brebis non juives. Et si on reprend Ésaïe 49, on peut lire le verset 6 un petit peu plus haut, si vous voulez, je vais le lire. Donc l'Éternel, dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce même passage d'Ésaïe, on voit que le bon berger est là aussi pour être la lumière des nations. Donc on a aussi un élément relatif à l'identité de Jésus, hein, parce qu'il accomplit un acte qui nous rappelle les prophètes. Alors ça, Benjamin nous l'avait bien montré quand Jésus avait nourri 5000 personnes. Et notamment, il avait mentionné Moïse, Élie et Élisée. Alors je ne vais pas reprendre les récits, hein, puisque du coup on les avait déjà vus. Mais on peut peut-être quand même lire 1 Roi 17, versets 13 à 16. C'est lorsqu'Élie s'adresse à la veuve de Sarepta pendant la famine.
Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon les paroles d'Élie. Cependant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa
mère. C'est jusqu'au verset 16. Merci. Donc là, voilà la souveraineté de Dieu hein, sur tous les éléments. Et... la nourriture, et avec Jésus, en fait, on a une différence d'échelle, hein, très clairement, par rapport à Élie. Ça nous montre bien qu'il est le prophète parfait, celui qui est le nouveau Moïse, comme disent certains, qui devait venir. C'est celui qui pourvoit véritablement à tous les besoins des humains, avec une abondance colossale. Alors, pareil, si on regarde dans le grec, au verset 8, il est fait mention des corbeilles, hein, qui sont remplies. Alors, nous, on pense à des petites corbeilles, mais en fait... c'est le même mot qui est utilisé quand, si vous regardez dans Actes et dans 2 Corinthiens, Paul fuit Damas et il est descendu dans une corbeille le long de la muraille. Et c'est le même type de corbeille. Donc ça veut dire qu'un homme accroupi au moins peut tenir dans cette corbeille. Je vous laisse imaginer la quantité de nourriture qui restait, l'abondance de ce miracle finalement. On voit Jésus qui finalement est Dieu lui-même, qui nourrit son peuple et qui nous donne notre pain quotidien. Donc, du coup, un peu l'idée centrale, ce que j'ai mis sur les feuilles que vous avez devant vous, de ce passage, c'est que Jésus est le bon berger qui a compassion de tous ceux qui viennent à lui, de près ou de loin, et qui prend soin d'eux en les accueillant à sa table. Alors j'aime bien faire, quand j'étudie la parole, faire le lien avec la bonne nouvelle, avec le plan de salut de Dieu. Et donc là ici, dans ce passage, il y a une allusion au repas du Seigneur, hein, comme je disais. Et quand on est convié à la table du Seigneur, on annonce sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. Et au-delà de son retour, on sait qu'on prendra part au repas des noces de l'agneau. Donc il y a aussi une allusion au festin messianique, où on sera dans la plénitude de sa présence et où on sera absolument plus dans le besoin. Deuxième lien, dans l'évangile de Jean, la parole nous dit que Jésus lui-même est le pain de vie, venu du ciel. Donc Jésus est celui en qui nous trouvons la satiété spirituelle par la foi en sa mort et sa résurrection. Je les ai mis aussi sur les feuilles, hein, trois petites applications. Alors ici, je me suis appuyé sur un théologien qui s'appelle Dominique Anger et que je vous recommande vraiment. Il a écrit un commentaire qui est très très intéressant sur cet évangile. Et la première application, c'est que personne n'arrive de trop loin pour venir dans la présence de Jésus. Là, on voit des gens qui viennent de loin, qui sont absolument pas originaires d'Israël probablement. Et voilà, personne n'est trop éloigné dans tous les sens du terme. Quels que soient nos péchés, nos statuts sociaux, nos origines, on peut venir auprès du Seigneur et nous accueillir à cette table. Et dans sa compassion, on voit que Jésus se préoccupe de notre subsistance, mais au-delà surtout de notre accès aux bénédictions du salut. Et c'est la deuxième application. Quand on a part au repas du Seigneur, on est invité à méditer sur Jésus en qui nous sommes rassasiés, et sur le banquet des noces de l'agneau qu'on prendra en sa présence, le festin dans lequel on sera pleinement rassasiés avec le Seigneur. Et enfin, troisième application. Si on réfléchit à l'action des disciples qui se sont occupés là de servir, ils ont un rôle mineur finalement dans ce récit. Mais pour autant, on peut se rappeler, se rendre compte que notre rôle de serviteur est tout à fait honorable. C'est-à-dire qu'on est appelé simplement à distribuer les bienfaits que Jésus seul peut offrir. Et c'est une grâce et une bénédiction. Donc, je vous propose de poursuivre. Si quelqu'un peut lire Marc 8, versets 10 à 13.
Aussitôt, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord.
Merci. Si je devais donner un titre à ce passage, j'aurais mis « Jésus débarque, les pharisiens surgissent ». C'est vraiment l'impression que ça donne. On voit, il arrive, et puis paf, d'un seul coup, les pharisiens, ils arrivent, ils commencent un débat, on les voit un peu agressifs presque, hein, et ils demandent un signe. Et en fait, d'après les théologiens, dans le grec, quand il est question de miracle, Marc, il utilise un autre mot que le mot qui est utilisé ici. Et en fait, a priori, les pharisiens ici demanderaient un signe qui authentifie spécialement qui est Jésus, quelque chose qui manifesterait la puissance divine directement depuis les cieux, confirmant qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais voilà, le texte nous le montre bien, en réalité, ils veulent tendre un piège à Jésus. Hein, si on prend le verset 11, il est dit que c'était pour le mettre à l'épreuve. Et en plus, ce type de signe s'est déjà produit devant des témoins, lors du baptême de Jésus, hein, Marc 1, 10 à 11. Et en plus de ça, on peut ajouter la proportion et le nombre de miracles que Jésus a accomplis sur Terre, qui est juste phénoménal. Ça laisse absolument aucune place au doute, bien sûr. Et en fait, on voit Jésus qui soupire intérieurement, alors peut-être de déception ou d'exaspération, et il leur pose une question qui est assez lourde de sens. Pourquoi cette génération demande un signe ? Et en fait, ce qui est implicite derrière, c'est que les signes les plus spectaculaires de l'histoire, ça changerait absolument rien pour ces pharisiens. En fait, ils sont de mauvaise foi et le problème, il se situe dans le cœur, en réalité. On peut lire, si vous voulez, Jean 12, 37 à 40, qui nous éclaire, et qui cite lui-même Ésaïe, d'ailleurs. Jean 12, 37 à 40, si quelqu'un veut lire.
Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi, ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse.
Merci. Effectivement, on voit bien que le problème se situe dans le cœur, l'endurcissement du cœur. Et puis j'ajoute aussi qu'il est probable que ces scribes-là, ces pharisiens, ils aient déjà assisté à des miracles de Jésus, parce qu'on est en Galilée, et en Galilée, Jésus a vraiment accompli beaucoup de miracles. Ça commence dès Marc 1, Marc 1, 28, premier miracle de Jésus en Galilée. Au minimum, ils en ont entendu parler, même probablement, ils en ont déjà vu. Et en fait, là, dans le passage, Jésus, il parle d'une génération. Et le terme est lourd de sens parce que, en fait, il relie leur endurcissement à l'endurcissement des Israélites dans le désert, qui avaient été nourris par Dieu pendant 40 ans et qui restaient pourtant incrédules. Peut-être si quelqu'un peut prendre le psaume 95, on va lire les versets 8 à 11.
N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent. Mes couverts, quoi qu'ils visent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.
Merci. En fait, là, dans ce passage des psaumes qu'on a lu, au verset 10, certains traduisent cette race, mais on peut aussi traduire cette génération. J'ai eu cette génération de dégoût. Et on voit que cette génération des Israélites a tenté à éprouver le Seigneur malgré qu'ils avaient vu ses œuvres. Et il y a encore un parallèle ici avec les passages précédents dans Marc, hein, et notamment Marc 7, verset 6. Jésus avait cité Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et en fait, le passage est assez court, il est assez abrupt, mais Marc a mis ça de manière volontaire, hein, c'est très succinct. Et en fait, parce que derrière, on a le départ de Jésus qui arrive de manière abrupte. C'est une forme de jugement, en fait, c'est une fin de non-recevoir qu'il adresse à cette génération, justement, qui est représentée par les pharisiens, en tout cas la majorité de cette génération, qui reste enfermée dans l'incrédulité. Et là, il va quitter la région, il va se rendre à nouveau sur l'autre rive, dans un territoire qui est mixte, à la fois païen et juif. Et c'est la fin de son ministère public en Galilée. Il va y repasser en Galilée, mais plus de manière publique. Donc c'est terminé. Il n'y aura plus de beaucoup de miracles publics, même en territoire juif, hein, dans la suite de l'évangile de Marc, il y a peut-être une ou deux exceptions près. Et donc c'est un peu une forme de jugement, une fin de non-recevoir. Et en fait, l'idée centrale qui ressort de ce passage, c'est que Jésus n'a aucun compte à rendre aux hommes. Son œuvre, elle est toute suffisante pour démontrer qu'il est le Messie. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est lié au cœur. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'ils ont les yeux ouverts ou non ? Et vous allez voir, on va voir dans la suite que cette question d'avoir les yeux ouverts, d'avoir le cœur disposé, elle est cruciale. Si on fait le lien avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ici, ben, on a quand même la volonté de Jésus de ressusciter les morts spirituels que nous sommes, mais c'est pas possible pour ceux qui rejettent son identité messianique et qui s'opposent à son autorité. Et le deuxième lien, c'est que le signe ultime qui indique l'identité de Jésus, qui indique que Jésus, enfin c'est quelque chose qui n'est pas ce que les hommes attendent en fait. Et là on voit les pharisiens qui attendaient un signe, quelque chose, peut-être le ciel qui s'ouvre ou que sais-je. Mais en fait le signe ultime qui indique qui est Jésus, c'est quoi ? C'est la croix. C'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Et c'est ce moment où Jésus va mourir dans les ténèbres, abandonné du Père, et ressuscité 3 jours après. Et ça finalement, les pharisiens, c'est complètement à l'opposé de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils voulaient. Et pour ce qui est des applications de ce passage, c'est pareil, je les ai mis sur la feuille que vous avez. La première, c'est que on voit Jésus qui repart très rapidement, et ça nous rappelle que le temps est court, que l'occasion de placer sa confiance en Jésus ne dure pas indéfiniment. Donc il faut la saisir. La deuxième application, c'est une invitation à s'examiner finalement. Est-ce qu'on cherche à mettre Dieu à l'épreuve en exigeant encore plus de prodiges, alors qu'on a tout ce qu'il faut dans les récits bibliques ? Et du coup, on peut se poser, est-ce qu'on a une démarche honnête? Est-ce qu'on a une démarche orgueilleuse? Est-ce qu'on cherche le Christ? Ou est-ce qu'on cherche un prétexte à la désobéissance? Parce que finalement, pour les pharisiens, c'était ça. Et troisièmement, si les miracles et les prodiges attestent de la personne de Jésus, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le problème, il est spirituel et il se situe dans le cœur, comme je disais tout à l'heure. Et on doit nous garder ça à l'esprit quand on évangélise, on peut forcer personne à croire. Bon, on va continuer notre lecture. Si quelqu'un peut prendre Marc 8, versets 14 à 21.
Les disciples avaient oublié de prendre des pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore?
Merci. Donc là, à partir de ce point du récit, Jésus va passer plus de temps à enseigner les disciples. Et là, en l'occurrence, il va leur donner un avertissement, et un avertissement assez sévère, à propos des pharisiens et de Hérode, donc les autorités juives de l'époque. On vient de voir juste avant l'endurcissement des pharisiens, hein. Alors les autorités juives de l'époque donc, refusent de reconnaître qui est Jésus, et ils rejettent son autorité. Et en fait, leur enseignement, il est contagieux, et il est dangereux pour les disciples. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette métaphore que Jésus emploie, la métaphore du levain, parce qu'on le sait d'ailleurs, on le voit ailleurs dans la parole, hein, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et donc on a encore une histoire de pain, mais sous une perspective totalement différente ici. En fait, on voit que le levain des pharisiens a commencé à contaminer les disciples en réalité. Ils sont complètement à côté de la plaque. Au lieu d'écouter l'avertissement de Jésus, ils sont en train de se concentrer sur des préoccupations matérielles. Ils regardent au pain qu'ils n'ont pas, alors qu'ils sont en présence de celui qui a nourri 5000, puis 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et donc la situation elle est quand même assez sérieuse, assez grave. Et là, Jésus va presque les assaillir de questions, il va leur poser une série de questions. Alors c'est des questions qui n'attendent pas forcément de réponse, hein, mais son but c'est de mettre en lumière leur aveuglement et la racine de leur incompréhension. Il y a une sorte de refrain qui encadre cette série de questions. C'est la question qu'il pose, ne comprenez-vous pas? On voit au verset 17 et au verset 21. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Ne comprenez-vous pas? Et effectivement, hein, les disciples ne comprennent pas. Et Jésus le dit au verset 18, hein, leur cœur est endurci. Et c'est le même mot grec que dans Marc 6, 52, après que Jésus ait marché sur les eaux. Marc nous dit qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Et on voit leur cœur qui est toujours endurci. Et après tous ces miracles, on a l'impression vraiment d'une stagnation spirituelle. On se dit, mais comment c'est possible qu'ils soient aussi aveugles? Et du coup, Jésus va même employer des paroles encore plus dures au verset 18. Quand il dit, ayant des yeux, ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas. Ici, des paroles de jugement, en fait. C'est des paroles qui sont tirées de Jérémie 5, 21. Quand Dieu explique pourquoi il va juger Israël. Donc c'est des paroles qui sont vraiment dures, mais en même temps, Marc il veut qu'on comprenne vraiment la dimension spirituelle de leur aveuglement finalement. Et puis Jésus il va poursuivre en faisant appel à leur mémoire, il va leur rappeler un petit peu les miracles qu'il a accomplis, et leur poser des questions, mais combien de corbeilles vous avez ramenées? Il va essayer de les interpeller, susciter une remise en question finalement. Et en fait c'est le début d'un processus en réalité, et ce processus il va prendre sa pleine mesure seulement après la résurrection et à la Pentecôte. mais il entame un processus, un lent processus, on pourrait dire. Et on voit que c'est pas gagné parce que à la fin, verset 21, donc il reprend sa première question, ne comprenez-vous pas? Donc la compréhension des disciples, elle est toujours là. Ils sont préoccupés par les choses matérielles, ils n'ont toujours pas compris qui était Jésus, son identité, son autorité. Ils sont hermétiques finalement aux leçons spirituelles qu'il donne. En fait, le levain des pharisiens a vraiment commencé à infuser en eux. Et pourtant, ils ont vu bien plus que les pharisiens, puisqu'ils étaient aux côtés de Jésus, jour après jour, ils l'ont vu agir, enseigner, faire plein de miracles. Et après, ce qu'on pourrait dire, il y a presque une forme d'opposition involontaire qui prend place parmi eux, face à Jésus. Alors, heureusement, la situation, bien sûr, elle est dans les mains du Seigneur, et elle n'est pas désespérée, parce que même s'ils sont aveugles, ils restent attachés à Jésus, et Jésus ne les abandonne pas, bien sûr. On va le voir dans la suite. Si on devait faire un lien entre ce passage et le plan de salut de Dieu, tout simplement, le vrai pain, c'est le pain du ciel, c'est Jésus qui donne sa vie à la croix pour nous libérer de l'esclavage des levains de ce monde. Et c'est Jésus qui nous conduit à lui par sa parole puissante, et on voit c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire avec les disciples. Donc, le message central, quand on est aveuglé par les levains de ce monde, on a besoin que Jésus nous ramène à lui par ses paroles et par le rappel de ses œuvres. Ici, le levain, c'est vraiment le fait de nier l'identité de Jésus, de s'opposer à lui. Maintenant, pour ce qui est des applications, la première, bah, fréquenter Jésus et fréquenter l'Église, ce n'est pas la garantie d'une vraie connaissance de Jésus-Christ. Et c'est utile de se poser la question, est-ce que les levains, est-ce que les faux enseignements de ce monde dictent notre vision de Jésus et notre conduite? Est-ce que notre proximité avec le Seigneur est réelle? Est-ce que l'incrédulité, la désobéissance à sa parole sont en train de doucement infusé dans nos vies. Deuxième application, on a tout ce qu'il faut dans la parole. C'est la suffisance des Écritures. On doit demander au Seigneur qu'il nous montre ce à quoi on reste aveugle, qu'il ouvre nos yeux à la lecture de sa parole. Enfin, troisième application, on a besoin de se rappeler constamment qui est vraiment Jésus et de se souvenir de ce qu'il a fait. On voit là que Jésus rappelle aux disciples le miracle passé. Et Jésus, on voit aussi sa patience, et on voit qu'il n'abandonne pas, même quand les disciples sont égarés. Et de même, il ne nous abandonne pas quand on lutte avec sa parole, quand on s'égare, qu'on a du mal à la comprendre ou à l'accepter. J'ai une petite application bonus que je n'ai pas mis sur les feuilles. Comme Jésus, il ne faut pas avoir peur de poser les questions qui dérangent sur le plan spirituel. On voit que là, il n'y va pas de main morte. Et si je résume d'ailleurs ces questions, il est en train de dire, est-ce que vous êtes plus préoccupé par l'existence matérielle, ici c'est la nourriture physique, que par une juste perception spirituelle? Mais donc du coup, des fois, les questions, elles sont vraiment importantes et elles font vraiment un ouvrage lent, mais profond dans les cœurs. C'est utile de poser des questions. Et souvent, on a tendance, et moi le premier, à balancer des arguments, à essayer de convaincre. Alors des fois, il faut poser simplement la bonne question. On va poursuivre, je vous propose de prendre Marc 8. Si quelqu'un peut lire les versets 22 à 30.
Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle pour le prier de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils lui répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus lui recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne.
Merci. Et en fait, là, on a deux récits et c'est volontairement que je les ai regroupés. En fait, au début, on a ce miracle un petit peu étrange, mais dont la portée, en fait, est très, très large, avec la guérison donc, de cet aveugle. Alors, d'abord, ce qui est intriguant, c'est que on voit que c'est des amis de l'aveugle qui l'amènent à Jésus, qui lui demandent de le guérir. Finalement, l'aveugle, on ne sait pas trop si lui-même était en recherche de guérison. Et des fois, dans les récits miracles, on voit clairement la personne qui court à Jésus ou qui crie à Jésus. Là, on voit juste les amis qui amènent cet aveugle, qui lui demandent de le guérir. Et ensuite, l'autre chose qui est intrigante, c'est qu'on voit Jésus conduire l'aveugle par la main et on est hors du village. Alors c'est un petit peu comme dans la guérison du sourd muet qui a eu lieu précédemment. Et en fait, quand on le voit faire ça, ça nous rappelle finalement autre chose. Son mode opératoire quand il enseigne les disciples. Souvent, quand il enseigne les disciples, il les prend à l'écart. Déjà, c'est assez curieux. Et puis, un autre élément, c'est que Bethsaïda, c'est une ville qui a été témoin de nombreux miracles de Jésus. Donc très clairement là, le miracle qu'il va accomplir n'est pas destiné à Bethsaïda. Donc probablement que sont présents l'aveugle, les amis de l'aveugle et les disciples vraisemblablement. Et au lieu de juste lui imposer les mains, en fait ce que Jésus va faire, ou même de dire une parole, hein, c'est qu'il va avoir un mode opératoire un peu particulier, on le voit, hein, c'est comme avec la guérison du sourd-muet, il avait utilisé sa salive. Mais il y a une différence avec la guérison du sourd-muet, c'est que ça se produit en deux étapes. La guérison, elle est progressive. D'abord, l'aveugle, il ne voit pas clairement. Jésus met ses mains sur ses yeux, et là, il est dit qu'il voit tout distinctement. Et en fait, ce miracle, Jésus fait rien par hasard, bien sûr. Hein, et le miracle ici, il a une visée pédagogique, en fait. C'est un petit peu comme dans l'Ancien Testament, il y a certains prophètes qui faisaient des mimes, des actions un peu particulières. Bon, je pense à Ézéchiel ou à Osée, par exemple. Et là, on est clairement dans ce cas de figure et on peut le déduire de deux choses. D'abord, on a le verbe « voir » qui apparaît à 5 reprises sous différentes formes. Alors, je ne vais pas vous détailler, hein, mais donc on a vraiment Marc qui met l'accent sur le verbe « voir ». Alors, on sait que c'est un aveugle, évidemment, mais pourquoi il appuie autant? Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que cette guérison progressive, là, elle s'intercale entre le récit qu'on a vu juste avant de l'aveuglement des disciples, aveuglement spirituel des disciples, et puis ensuite, le récit qu'on va voir de la confession de Pierre. Et en fait, c'est dans la continuité. Jésus, il est en train de nous montrer que ce processus qu'il a entamé, là, est en train de s'accomplir. L'aveuglement spirituel des disciples va commencer à être guéri. Mais seulement, c'est progressif. Et enfin, on voit Jésus, à la fin de ce premier récit, qui renvoie l'aveugle hors du village. Il lui dit de ne pas rentrer dans le village. Et en quelque sorte, il le préserve des gens du dehors. Parce que, comme je disais, Bethsaïda, ils ont assisté à beaucoup de miracles. Mais par ailleurs, hein, on sait par les autres évangiles que c'est des villes qui se sont, de manière globale, les gens se sont endurcis, ils n'ont pas été réceptifs à ces miracles. Et Jésus aura d'ailleurs des paroles très dures à l'égard de Bethsaïda. Et en fait, d'une certaine manière, il préserve cet aveugle des gens du dehors. Et puis, à nouveau, on voit Jésus poser des questions après cet événement. Vous vous rappelez, là, dans la barque, il les a assaillis de questions. Et là, à nouveau, il va leur poser des questions. Et d'ailleurs, il va leur poser deux questions. Et là, la première question, c'est « Qui suis-je au dire des hommes ?» Et en fait, on va voir les disciples qui répondent en évoquant les conceptions de leur temps, hein, ce que les gens pensaient de Jésus. Alors, il y en a qui disaient que c'était Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disaient que c'était le prophète Élie, un des prophètes. Et c'est des réponses qui ne correspondent pas à l'identité réelle de Jésus, bien sûr. Et ici, on sait que l'identité de Jésus, c'est vraiment le nœud du problème, que ce soit l'aveuglement, l'endurcissement des pharisiens qui nient l'identité de Jésus, ou que ce soit les disciples qui restent hermétiques à qui est Jésus. Et Jésus ensuite pose la deuxième question, « Qui dites-vous que je suis ?» Il s'adresse vraiment de manière frontale aux disciples. Et là, enfin, on a vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment un des points culminants de Marc, on a Pierre qui répond avec justesse, « Tu es le Christ ». En fait, c'est vraiment l'apogée de la première partie de Marc, parce que là, la guérison des aveugles, elle a vraiment commencé. C'est là, pour la première fois, en fait, on a les disciples qui entrevoient qui est Jésus. Alors, après tout ce qu'ils ont vu, Jésus, donc le Messie, Christ, Messie, hein, c'est synonyme, c'est l'hébreu, le grec, loin de l'Éternel, le roi de la lignée de David, le libérateur de son peuple. Et en fait, si vous regardez dans Marc, les mots Messie ou Christ, ils n'apparaissent pas avant, sauf à un seul endroit, c'est dans Marc 1, verset 1. Et Josias nous l'avait dit, hein, Marc 1, verset 1, c'est un peu l'introduction, finalement, c'est la façon dont Marc lance son évangile. Et si je vous le relis, Marc 1, verset 1, c'est « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus le Christ, le Fils de Dieu, on va dire Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et dans toute la première partie de son évangile, Marc, il a pris le soin de montrer l'autorité de Jésus, hein, on l'a vu avec Benjamin et Georges, que Jésus était vraiment le serviteur parfait, le roi, le Messie, le Christ, on a vraiment cette notion d'autorité messianique finalement. Mais là, dans le récit de Marc, il manque la deuxième partie de la phrase, et c'est tout à fait intentionnel de la part de Marc, parce que si vous regardez par exemple dans Matthieu, Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors, pourquoi cette omission elle est volontaire? Parce qu'en fait les disciples, ils ne voient pas encore bien net, un peu comme notre aveugle juste avant, ils en sont qu'à la première étape. En fait, j'avais prévu de partir sur de vous citer un psaume, hein, un psaume d'intronisation royale, mais je suis tombé sur un article qui parlait de travaux de traduction qui ont été faits sur des fragments de manuscrits des manuscrits de la Mère Morte, hein, qui ont montré que dans le contexte juif de l'époque, le titre de fils de Dieu ne désignait pas plus qu'un messie humain, un libérateur politique. En fait, l'expression fils de Dieu dans le contexte culturel juif de l'époque n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui au temps de Jésus. Et donc, en fait, quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il ne saisit pas lui-même pleinement ce qu'il est en train de dire quand il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et en fait, comme l'aveugle guérit en deux temps, hein, le Messie des disciples, c'est encore un Messie humain, un Messie politique. C'est un Messie qui doit les libérer de l'occupant romain, finalement. Et ce n'est pas le Messie divin, et ce n'est pas le Messie souffrant, comme on va le voir la prochaine fois. Et en fait, sa mission rédemptrice, hein, sa nature divine, elle leur échappe, malgré tout ce qu'ils ont vu. Ils saisissent en tout cas pas clairement qui est vraiment Jésus. Il faudra attendre la fin de l'évangile pour qu'il y ait quelqu'un, et ce sera un non-juif d'ailleurs, qui confesse que le Fils de l'homme est aussi vraiment le Fils de Dieu. C'est l'officier romain, on verra, c'est dans Marc 15, 39. Et donc en fait, là, à partir de maintenant, Marc il va s'attarder à démontrer la nature et la vie du royaume messianique à venir, mais aussi la mission de Jésus, le Fils de Dieu. Et de fait, à la fin du passage, pour éviter un excès de zèle des disciples, hein, qui ont cette idée probablement de messie politique, il les avertit sérieusement de ne parler à personne de sa messianité, parce que le but c'est d'éviter que les foules, parce qu'il y avait cette attente messianique très très forte à l'époque, le but c'est d'éviter que les foules cherchent à faire Jésus roi, alors que sa mission n'était pas achevée sur terre. Donc le message central de notre passage, c'est que seul Jésus peut nous ouvrir les yeux sur sa véritable identité. C'est lui qui guérit l'aveuglement de nos cœurs au moment fixé, et c'est lui qui nous amène à confesser son rôle et son autorité messianique. Le lien avec l'évangile, la bonne nouvelle, le plan de salut de Dieu, il est assez clair, hein, Jésus est bien le Christ, le Messie de Dieu, annoncé par les prophéties, mais ce n'est pas un roi conquérant qui va mettre un terme à l'occupation romaine, comme les disciples pensent encore, disciples qui ne voient toujours pas clairement, c'est le roi serviteur qui offrira sa vie en sacrifice pour les péchés. Et ici on a un début d'accomplissement d'Ésaïe 32, versets 3 à 4, peut-être si quelqu'un veut le prendre. Ésaïe 32, versets 3 à 4.
Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent et comprendre, et la langue de ceux qui veulent du coup parlera vite et nettement.
Merci. Donc là, voilà, on a un début d'accomplissement de cette prophétie. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, Georges avait enseigné sur cette guérison un peu particulière du sourd muet. Et là, on a eu cette guérison de l'aveugle. Et finalement, c'est pas un hasard si Marc a mis ces deux passages. C'est parce qu'effectivement, on a cette visée pédagogique derrière ces miracles. Et on a un début de guérison. De l'aveuglement spirituel, de la surdité spirituelle des disciples ici. Pour ce qui est des applications, on peut se poser une première question, c'est est-ce que notre vision du Messie est partielle? Est-ce que c'est un Christ tronqué? Est-ce que c'est un Christ qui ressemble aux préjugés du monde? Malheureusement, dans certains milieux, on voit que les gens considèrent Jésus comme un bon gars, qui a une bonne morale, ou un prophète parmi d'autres, voire même un gourou. On peut se poser la question, voilà, est-ce qu'on a confessé publiquement le Christ, le roi serviteur, pleinement homme et pleinement Dieu, venu pour nous sauver de la colère de Dieu? Deuxième application, si Jésus nous a ouvert les yeux, eh bien, obéissons lui, ne rentrons pas dans le village. On avait au verset 26, On est dans le monde, on n'appartient plus au monde. Et il est nécessaire pour nous d'approfondir notre connaissance de Jésus, d'être auprès de lui comme le sont ses disciples. Ça ne veut pas dire de se replier sur soi, parce que Jésus, à aucun moment, les a sortis du monde, ils ne se sont pas mis dans une maison et fermés. Et voilà. Ils sont restés au contact du monde. Mais on voit que il y a une nécessité de se garder, voilà, de certaines personnes, de certaines influences qui peuvent être mauvaises, que ce soit ici les pharisiens, que ce soit pour l'aveugle, la ville de Bethsaïda, avec l'endurcissement des gens qui ont assisté au miracle de Jésus. Et puis enfin, troisième application, ayons la même patience que le Seigneur à l'égard des personnes en recherche. Si on reprend un peu tout ce processus, on voit que Jésus, vraiment, il est patient. On a vu toutes les questions qu'il a posées aux disciples, tous les miracles depuis le début du récit de Marc qu'il a accompli sous leurs yeux. Donc on voit vraiment cette patience du Seigneur et on voit sa patience à l'égard de toutes les personnes finalement qu'il aborde, sauf quand il a conscience qu'il y a un réel endurcissement, une réelle agressivité, comme avec les pharisiens qui nient son identité. Et donc on voit que Jésus il se révèle aussi de manière progressive parfois et en son temps. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais n'hésitons pas aussi à poser des questions sur l'identité de Jésus quand on est avec des personnes qui sont en cheminement pour savoir où ils en sont. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va voir en quoi les disciples ne voient pas encore clairement, plus en détail. Hein, et puis, on va voir aussi comment le Seigneur va les conduire. Il va les prendre par la main, comme il a pris cet aveugle par la main. Il va les conduire sur de nouveaux sentiers. Peut-être qu'on peut conclure en priant. Il reste 10 minutes, je pense pas avoir le temps de poursuivre sur la suite. Donc, si un frère ou une soeur veut prier pour qu'on puisse conclure.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'étude de ta parole. Merci pour cet évangile que nous étudions. Merci de voir tout ce qui est révélé à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il faut parfois méditer la parole et des fois la lire, mais aussi la relire pour bien comprendre. Et Seigneur, c'est vrai que lorsque nous lisons cet évangile, nous sommes toujours interpellés par cette question qui pose à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Et nous avons vu dans ces 8 premiers chapitres que combien de manière absolument incroyable tu t'es révélé à toutes les personnes que tu as croisées, toutes les personnes qui étaient sur ton chemin. Et c'est à ce moment-là que tu poses la question aux disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Et Seigneur, effectivement, nous voulons nous aussi nous poser à nous-mêmes cette question et vraiment y répondre avec sincérité, avec foi, parce que nous voyons, tu nous montres, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur, tu nous montres que tu es effectivement le Fils de Dieu. Et nous voulons te prier pour que tu continues de nous révéler la profondeur de ce que ça représente, de ce que ça veut dire. C'est vrai que nous savons que tant que nous serons ici-bas, nous allons continuer d'apprendre de toi. Et c'est inépuisable, Seigneur, un peu comme lorsque tu as multiplié ces pains, tu nous nourris de manière abondante et de manière infinie. Et nous allons découvrir vraiment la grandeur que tu as, et petit à petit nous avançons, et pour le moment nous ne voyons que de façon partielle, Seigneur, mais nous savons que qui tu es, vraiment que ton identité soit claire en nous, et que nous puissions chacun d'entre nous nous agenouiller devant toi, nous abaisser pour reconnaître, nous humilier, reconnaître que tu es le Fils de Dieu, que tu es le roi des rois, que tu es notre Créateur. Et Seigneur, vraiment, nous te prions pour que cela puisse être révélé à chacun d'entre nous. Peut-être que nous sommes en train de cheminer, d'avancer, de découvrir. Et Seigneur, c'est vrai, tu es patient envers nous et nous voulons te remercier de cela aussi parce que tu nous comprends, tu connais nos cœurs, tu nous attires à toi et nous voulons vraiment avancer sur ton chemin en sachant que c'est toi qui nous guides et qui nous tire à toi par tes cornages d'amour. Merci Seigneur de tout ce que tu nous as révélé et tout ce que tu vas encore nous révéler. Merci de raccompagner chacun ce soir. Merci d'être avec tous ceux qui auraient voulu être là mais qui n'ont pas pu parce qu'ils ont des choses qui les retiennent ou la maladie, Seigneur. Mais nous savons que partageant un même esprit et nous savons qu'ils peuvent être au bénéfice de la communauté fraternelle, même s'ils ne sont pas avec nous physiquement. Merci d'être avec eux et de veiller sur toutes les personnes que nous t'avons remises en vécu de culte, aussi le papa de Josias, toutes ces personnes, Seigneur, nous voulons te les remettre et te remercier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.